Voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être là ce matin. Merci de m'accueillir ce matin. En effet, donc, le pasteur Christian Monod est à la Ripon en ce moment. Et c'est avec joie donc, que j'ai accepté aussi l'invitation de vous apporter ce matin ce que Dieu a placé sur mon cœur. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, peut-être pas, peut-être de nom. Peut-être que certains me connaissent plus comme le vice-président de l'Union des Églises de Réveil, ceux qui viennent aux assemblées générales. Et si je dis ça, c'est parce que parfois, lorsqu'on a des orateurs invités qu'on ne connaît pas très bien, on est un peu curieux de savoir ce qu'ils vont dire et comment ils vont apporter la chose. Et j'aimerais vous dire que j'ai pris une décision ce matin, c'est de me sentir à l'aise. Et je vais vous prêcher la parole de Dieu comme si je l'aurais prêché à la Ripon. Et je vais vraiment vous apporter ce matin un message qui est sur mon cœur. Vraiment, je n'ai pas choisi un message passe-partout. Hein. Mon but, ce n'est pas forcément que vous me réinvitiez, même si j'espère que... Mais c'est vraiment de vous apporter un message que le Seigneur a placé sur mon cœur pour vous ce matin. Et j'aimerais voir avec vous ce thème de l'esprit, essentiellement comment et pourquoi marcher par l'esprit. C'est ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour vous ce matin. Pourquoi et comment marcher par l'esprit? Dans 1 Samuel chapitre 16, pour introduction, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1, Dieu va parler. Dieu va parler à son prophète Samuel. Et il va lui poser une question. Une question intéressante. Il va lui dire ceci. Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? D'autres versions disent, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ensuite, Dieu continue et dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta canne d'huile et va. Et je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu donc pose une question ici au prophète Samuel. Jusqu'à quand vas-tu porter le deuil sur le roi Saül? Saül avait échoué. Il n'avait pas réussi devant Dieu. Il avait été choisi pour être le roi d'Israël. Mais il n'a pas fait, d'une certaine manière, le poids devant Dieu. Dieu, et le prophète Samuel aussi, avait espéré que ce roi marcherait avec Dieu, marcherait par l'esprit. Mais voilà que ce roi suit un autre chemin, celui de la chair. Et il se révèle être un roi selon la chair, un roi qui donne plus d'importance à ce que les hommes pensent de lui que ce que Dieu pense de lui. Un roi qui va plus chercher la gloire des hommes, un roi qui va plus chercher à plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Et Samuel est brisé. Parce qu'il y avait, quand on lit un petit peu leur relation, elle est un peu particulière, quand on étudie un peu leur relation, leur relation, je la compare un peu à la relation père-fils spirituel. Saül dépendait fortement de Samuel. À chaque fois, pour tout ce qu'il doit faire, il va voir le prophète Samuel. Il semble qu'il n'arrive pas vraiment à développer cette relation avec Dieu. Il faut que Samuel soit tout près de lui pour lui annoncer ce que Dieu veut. Et il avait cette relation de dépendance entre les deux. Et Samuel lui-même apportait la parole de Dieu et lui montrait le chemin, et lui montrait comment faire pour obéir à Dieu. Et voilà maintenant que Saül va échouer. Il va rater la tâche, il va complètement se planter. Et Dieu va révéler à Samuel qu'il ne fait pas le poids, qu'il ne fait pas le poids. Alors Samuel pleure, il est brisé, émotionnellement il est aussi brisé. Il crie à Dieu, il se plaint, Il se plaint peut-être auprès de Dieu, il dit « Dieu, oh pourquoi tu as été si dur avec Saül ?» Ou peut-être même qu'il dit « Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas réussi? Pourquoi tu n'as pas été à la hauteur ?» Et certainement qu'il va dans tous les sens, il est dans l'émotion, ses pensées partent dans tous les sens, il est triste, il est désemparé. Et à un moment donné, il faut que Dieu intervienne. Et Dieu vient avec cette question. Jusqu'à quand vas-tu porter le deuil sur le roi Saül? Remplis ta corne maintenant d'huile et va chez Isaïe, car j'ai trouvé un autre roi, un roi selon mon cœur. Il y a ici un double encouragement. Un premier encouragement à fermer une porte. Et le second encouragement est celui d'ouvrir une porte. Le premier encouragement est de fermer la porte sur le règne de Saül, qui était un règne selon la chair. Le deuxième encouragement est d'ouvrir la porte au nouveau roi, qui allait introduire un nouveau règne, qui est un règne de l'esprit. Et il me semble que le Saint-Esprit, ces temps, veut parler à son Église, un peu comme il a parlé au prophète Samuel. Et il aimerait dire à son Église, il est temps de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Il est temps de fermer la porte à tout ce qui est charnel en nous. Il est temps de fermer la porte au règne de la chair et d'ouvrir grand notre cœur au règne de l'Esprit pour que l'Esprit puisse agir au travers du roi des rois Jésus et faire son œuvre dans nos vies. Et j'aimerais vraiment vous apporter ce message. Il faudra, et vraiment mon cœur ce matin et le but de mon message, c'est de vous amener à claquer des portes. Claquer la porte sur la chair et ouvrir la porte du cœur grand ouvert à l'Esprit pour qu'il fasse son œuvre dans nos cœurs et nous conduise dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 5, le verset 16 et 17, il dira « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'apôtre Paul donne une instruction ici. Il dit, je dis donc. Donc il insiste, il veut vraiment que l'Église entende ce qui suit. Et ce qui suit est marcher par l'esprit afin de ne plus accomplir les désirs de la chair. En d'autres termes, pour reprendre l'image de la porte, l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église, si vous ouvrez grand la porte de votre cœur à l'Esprit de Dieu et à son règne dans votre vie, à sa puissance dans votre vie, alors toutes les portes qui sont fermées sur la chair ne s'ouvriront plus et n'exerceront plus l'autorité sur vous. Et de cette manière, vous allez pouvoir entrer dans les œuvres de Dieu pour votre vie. Et j'aimerais donc vous encourager dans ce sens ce matin. Et nous allons rapidement, ne faites jamais confiance à un pasteur quand il dit rapidement, répondre à quatre questions. Que signifie marcher par l'esprit? Pourquoi marcher par l'esprit? Troisièmement, qui est un point important dans mon message, quelle est la grande condition? Je crois qu'il y a en tout cas une grande condition pour marcher par l'Esprit. Et enfin, ce sera la conclusion, on va se poser la question, on va se mettre devant Dieu, on va se poser la question personnellement, où en suis-je dans ma marche dans l'Esprit? Alors, que signifie marcher par l'Esprit? Et pourquoi est-ce important de marcher par l'Esprit? On prend ces deux questions ensemble. Marcher par l'esprit signifie se placer C'est comme ça que je définis se placer entièrement sous l'autorité du Saint-Esprit et se laisser entraîner dans son courant. Celui qui marche par l'Esprit se place entièrement sous, en d'autres termes, se soumet à l'autorité du Saint-Esprit et se laisse ensuite entraîner dans le courant du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il obéit à ce que le Saint-Esprit dit, obéit à ce que Dieu dit et se laisse entraîner là où Dieu veut l'emmener. C'est-à-dire qu'il se laisse entraîner dans les œuvres de Dieu. Pourquoi sommes-nous appelés à marcher par l'Esprit ? Parce que c'est le seul moyen, c'est la clé pour entrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Nous pouvons, en tant qu'Église, accomplir beaucoup d'œuvres. Mais le seul moyen d'accomplir les œuvres de Dieu, c'est de marcher par l'Esprit. Et l'Église, aujourd'hui, est encore sur terre pour cette raison précise. Accomplir les œuvres de Dieu. La raison de notre présence sur terre n'est pas forcément d'accumuler des réunions ou de faire un nombre incalculable d'événements, mais surtout de comprendre quel est le cœur de Dieu et d'aller là où il veut nous emmener et d'accomplir exactement ce qu'il veut qu'on accomplisse pour sa gloire. Parce qu'au final, le but dans tout ce qu'on fait, c'est de rendre gloire à Dieu et que son nom se manifeste avec puissance. Maintenant, écoutez-moi. Avant de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu dans ce monde, il y a une œuvre que Dieu veut accomplir dans notre cœur. Je répète, avant d'accomplir les œuvres de Dieu dans ce monde, il y a une œuvre que Dieu veut accomplir dans notre cœur. Il y a donc des œuvres que Dieu veut accomplir hors de nous, au travers de nous, mais il y a aussi une œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Et ce que vous devez comprendre est que ces œuvres sont liées. Si tu veux que Dieu t'utilise avec force et puissance dans ce monde, tu dois d'abord permettre à Dieu de se manifester avec force et puissance au plus profond de ton cœur. Et la vérité est, plus tu permettras à Dieu d'accomplir son œuvre en profondeur en toi, plus tu permettras à Dieu d'agir puissamment au travers de toi. L'Église est appelée à être une Église puissante devant Dieu. Mais une Église puissante devant Dieu est avant tout une Église qui a permis à Dieu d'accomplir son œuvre puissamment et profondément dans son cœur. Et voici malheureusement un des problèmes à cela. Un des problèmes à cela est qu'en tant qu'Église, nous désirons que les choses bougent autour de nous, n'est-ce pas? Mais souvent, nous ne sommes pas prêts à ce que Dieu fasse bouger les choses en nous. On prie souvent, Seigneur, fais bouger les choses. Mais Dieu vient et dit, d'abord, je veux bouger ton cœur. Seigneur, je veux que les choses changent autour de moi. Et Dieu dit, moi, je veux que les choses changent en toi. Dans mes premières années de mariage, je faisais souvent une prière. Je disais, Seigneur, si tu veux que mon mariage progresse, si tu veux que mon mariage prenne son envol, change ma femme. Et Dieu, à chaque fois, me répondait la même chose. Michel, tu te trompes. Si tu veux que ton mariage prenne son envol, toi, change d'abord. Mais je ne comprenais pas, ou en tout cas, je ne voulais pas comprendre ce que Dieu me disait, non. Alors je revenais vers Dieu, je disais, Seigneur, si tu veux que mon mariage prenne son envol, change ma femme. Je disais, toi, change d'abord. Et on s'est un petit peu comme ça, on s'est renvoyé la balle pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, j'ai capitulé. Parce que je me suis rendu compte que faire pression sur ma femme et vouloir absolument qu'elle change, ça faisait qu'empirer les choses. Et donc j'ai laissé Dieu faire pression sur mon cœur et changer mon cœur petit à petit. Et j'ai vu, vous savez quoi ? Les choses changer. Et notre mariage prendre son envol. Et ça fait vraiment quelques temps que nous sommes vraiment en train de vivre une saison d'été dans notre mariage. Lorsque tu comprends ce principe, tu permets à Dieu de faire des choses profondément en toi, mais aussi puissamment au travers de toi. Laissez-moi que vous raconter une histoire. Toujours au propos de ma femme. J'ai rencontré ma femme à l'école biblique en Angleterre, à Burgess Hill, près de Brighton. Et après les études, nous avions un projet, celui de nous marier. Un beau projet. On avait planifié, avec le Seigneur, je le crois, le mariage le 26 octobre 2002. Je réfléchis. Et lorsque j'ai terminé mes études, c'était en juin 2002. Heureusement que ma femme n'est pas là. Voilà que donc en juin 2002, je termine mes études et on devait se marier en octobre 2002. Et en général, lorsque tu es étudiant, ben, tu n'accumules pas beaucoup d'argent. Et donc voilà que je suis en Belgique. Ça va, vous m'aimez toujours ? Voilà que je suis maintenant rentré chez moi, plutôt chez mes parents. Nous sommes en juin 2002 et je dois me marier en octobre 2002. Et je n'ai pas un sou en poche. Et là, soudainement, je prends conscience qu'il reste à peine quelques mois et je vais devoir faire face à un gros mariage avec beaucoup de dépenses. Alors j'ai commencé à paniquer, oui. La porte de la chair a commencé à s'ouvrir. La chair a commencé à venir prendre son influence sur moi. Il y a eu des pensées qui sont venues. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est sûr, je dois me marier si tôt ? C'est dans quelques mois, je n'ai pas d'argent. On va avoir plein de gens qui vont venir. Comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir assumer cela ? Mais voilà, ça partit dans tous les sens. Et j'ai eu cette pensée, c'était donc de faire un plus petit mariage. Bon, on va faire un petit mariage d'une vingtaine de personnes. On va juste inviter la famille, juste mes parents, mon frère, mes deux sœurs, et puis ma femme invitera juste sa petite famille. On va faire ça juste en petit, là c'est bon, on fera un repas canadien. Et ce sera tranquille. Et à ce moment-là, alors que j'étais presque résigné d'aller dans ce sens-là, le Seigneur a commencé à frapper à la porte de mon cœur. Vous savez pourquoi le Seigneur frappe à la porte d'un cœur ? En général, si le Seigneur frappe à la porte d'un cœur, c'est parce que la porte est fermée. Et s'il frappe à la porte du cœur, c'est parce qu'il veut que la porte s'ouvre. Alors il frappe à la porte de mon cœur parce que j'avais fermé la porte et j'avais ouvert d'autres portes. Alors je décide d'ouvrir la porte et laisser à nouveau entrer le Seigneur et à lui faire confiance. Et à ce moment-là, une pensée est venue dans mon cœur. Dans mes recherches d'une salle, mes yeux avaient rapidement vu, mais très rapidement, vu un château. Un petit château, mais un château quand même. Et Dieu me remet en mémoire ce château et me dit, va voir ce château. J'ai ouvert la porte de mon cœur. Et Dieu dit, va voir ce château. Et je suis allé voir ce château avec un ami. Nous étions en Twingo. On arrive donc près de ce château. On visite le château, une belle salle pour accueillir du monde pour le mariage. Un beau jardin. Même l'allée centrale était belle pour rentrer dans la salle. Tout était parfait, magnifique. Et puis bien sûr, le propriétaire nous donne le prix. Et là, c'est plus totalement magnifique. Et de nouveau, la chair revient. Mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Mais j'avais l'impression de... Je dis, mais pourquoi je suis là dans un château ? On est dans un autre monde. Et puis, de nouveau, Dieu frappe à la porte de mon cœur. C'est ce château que je veux. Je dis, ok, Seigneur. Et donc, j'ai juste fait confiance au Seigneur parce que je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Et puis, en discutant un petit peu avec d'autres personnes, finalement, l'argent est arrivé. Je fais l'histoire courte. Et nous avons réussi à nous marier dans ce château. Dans ce château. Et je me rappelle, pendant la réception, alors que je suis assis sur une belle table ronde dans ce château, avec tous les invités, je suis soudainement en train de regarder tous ces invités qui sont là autour de moi, avec ma femme à côté de moi. Et soudainement, le Saint-Esprit tombe sur moi. Et le Saint-Esprit me dit, « Michel, je veux que cet instant reste gravé à jamais dans ton cœur. Je veux que tu comprennes que c'est exactement de cette façon-là que je traite mes enfants. » Je suis le roi des rois et toi, tu es mon fils dans ce château. J'étais en train de vivre un moment prophétique. Et Dieu est en train de me dire, ne doute plus jamais. Fais-moi confiance. Et tant que tu me feras confiance, tu verras qui est le roi des rois. Tu verras à quel point je suis puissant pour ceux qui se confient en moi. Et j'aimerais vous encourager à faire confiance de tout votre cœur à Dieu. Lorsque vous ouvrez la porte au Saint-Esprit, vous êtes en train d'ouvrir la porte au roi des rois. Vous êtes en train de laisser le roi entrer dans vos vies pour qu'il vous conduise dans des œuvres qui vous dépassent complètement. L'apôtre Paul avait bien compris cela. Dans Éphésiens chapitre 3 au verset 14, il dit « Je plie le genou, il prie ». Il prie pour l'église à Éphèse. Il prie pour que cette église puisse recevoir une révélation profonde de Jésus-Christ. Et avec cette révélation, qu'il puisse connaître la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Jésus. Et juste après cela, au verset 20, il citera ce verset. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'apôtre Paul avait compris que pour voir la puissance de Dieu se manifester, il y avait d'abord une œuvre en profondeur qui devait se faire dans nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il prie, afin que Dieu se manifeste en profondeur et que Christ soit enraciné dans nos cœurs, afin que plus rien puisse empêcher à la puissance de Dieu de se manifester au travers de nous. Et je crois que Dieu veut vous emmener dans des œuvres qui vont juste vous dépasser. Parce que Dieu se plaît de faire ce genre de choses. Mais nous, on n'aime pas trop qu'ils viennent trop profondément dans nos vies. Et c'est ça le problème. Nous devons capituler. Nous devons fermer la porte à la chair. Et ouvrir la porte du cœur grand ouvert. Amen. J'aimerais terminer avec ce dernier point. Quelle est maintenant la grande condition pour entrer dans cette dimension du Saint-Esprit? Quelle est la grande condition pour marcher par l'Esprit? Pour comprendre cela, nous devons comprendre qui est vraiment le Saint-Esprit et quel est son rôle, rapidement. Vous devez comprendre qui est la personne que vous accueillez dans votre vie. Car lorsque vous comprenez qui vous accueillez dans votre vie, vous avez des attitudes qui sont bien particulières et précises. Et parfois, nous n'avons pas ces attitudes. Parfois, nous oublions qui nous accueillons dans notre vie. Voici ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 16. Il dira, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. » Et donc, ici, Jésus nous parle du Saint-Esprit comme étant, premièrement, le consolateur, qui, en grec, est le parakletos. Le parakletos signifie, je suis sûr que vous le savez déjà, littéralement, celui qui a été appelé à se placer à côté d'eux. Et c'est vraiment le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir et de se placer à côté de nous. Il vient à côté de nous pour exercer son ministère. Il vient à côté de nous pour que nous, nous soyons à côté de lui et que nous puissions vivre un cœur à cœur. Mais maintenant, Jésus a dit que non seulement le Saint-Esprit était le Paraclétos, mais il va rajouter quelque chose. Il va dire qu'il est un autre consolateur, un autre Paraclétos. Et ce petit mot « un autre » est très important. Parce qu'il ne s'agit pas dans le grec de hétéros paratéklos, mais de allos, qui signifie non pas différent, complètement différent, mais plutôt un différent, mais du même genre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas Jésus, mais il vient pour se tenir comme Jésus. Il vient pour exercer le ministère de Paraclétos comme Jésus l'a exercé envers ses disciples. Jésus a été un Paraclétos pour ses disciples. Jésus a enseigné ses disciples. Jésus a aidé ses disciples. Jésus a encouragé, fortifié ses disciples quand ils avaient des soucis. Il les a relevés, il les a repris aussi. Et maintenant Jésus dit, je ne vous laisse pas seul parce que un autre Paraclétos va venir à vos côtés. Ce ne sera pas moi, mais il va agir, il va se manifester, il va se tenir à vos côtés comme si j'étais là. Et il va exercer son ministère encore de la même manière et les choses vont continuer pour vous. Maintenant, Jésus continue et il dit, un autre Paraclétos, mais un autre Paraclétos qui soit éternellement avec vous. Et ça, c'est très important. Un jour, alors que j'étais en train d'étudier ce passage des Écritures, ce mot « éternellement » m'a frappé aux yeux. Il y avait comme une révélation. Ça me pétait dans les yeux et dans le cœur. Alors, j'ai juste un réflexe. C'est vite d'aller voir dans le grec qu'est-ce que ça veut dire. Et je vais voir ce que ce mot éternellement veut dire. Parce que des fois, ce n'est pas toujours bien traduit. Ou des fois, il y a des nuances. Vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que ce mot éternellement voulait exactement dire ce qu'il voulait dire. Et je n'en revenais pas. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va nous envoyer un autre consolateur qui soit éternellement avec nous. Et là, j'ai commencé à comprendre des choses. J'ai commencé à comprendre que lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour repartir ensuite, premièrement, et deuxièmement, lorsqu'il vient dans une vie, écoutez-moi bien, il ne vient pas pour être poli avec nous. Lorsqu'une personne vient et repart, c'est ce que j'appelle un visiteur. Or, lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas comme un visiteur. Parce que lorsqu'il vient, il vient pour rester. Et la Bible précise que non seulement il veut rester, mais il veut rester éternellement. Il veut rester tout le temps avec moi. Parce qu'il ne vient pas comme un visiteur. Si vous invitez quelqu'un chez vous, comment allez-vous accueillir cette personne? Et comment le visiteur va se comporter? Le visiteur va venir à votre porte. Peut-être la veille, vous allez nettoyer à fond la caisse chez vous. Bien nettoyant de tous les coins, surtout là où il va y aller. Voilà que le visiteur arrive, il sonne à la porte. Vite, 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 vite. On met tout en place, tout est en place. Oui, hop, on ouvre la porte, le visiteur est là. Le visiteur est souriant. Il est content d'être là. Il a apporté une bouteille de vin. Et la femme a porté du chocolat ou des fleurs. Tout va bien. Les visiteurs entrent ou les visiteurs entrent. Mais les visiteurs attendent maintenant qu'on leur montre le chemin. Alors on monte le chemin jusqu'au salon. Alors les visiteurs vont jusqu'au salon. Ils attendent qu'on leur dise « Asseyez-vous !» Alors ils s'assiedent. Ils boivent ce qu'on leur offre. Ils ne vont pas aller au frigo et se servir. Ils mangent ce qu'on leur donne. Ils mangent les cacahuètes ou les concombres ou les carottes, je ne sais pas. Et puis ils mangent, et puis ils sont heureux, et puis c'est la discussion, et puis on sourit, et puis on parle, et puis le moment vient, on passe à table, et on mange, et même si on n'aime pas, on dit rien. Parce qu'on reste poli, et on veut que ça se passe bien. Alors on discute, on passe au dessert. Et jamais le visiteur, à un moment ou à un autre, va se lever pour aller dans la chambre à coucher et fouiller dans les armoires. Jamais le visiteur va oser faire ce genre de choses. Si le visiteur voit quelque chose qui ne plaît pas dans la maison, il ne va pas dire « Oh ça, ça ne va pas. » Est-ce que vos visiteurs vont commencer à regarder dans vos livres là, « Qu'est-ce que tu es en train de lire, toi ?» Puis commencer à fouiller là, « Ah, ça ne va pas, ça. » Le visiteur ne va pas faire ce genre de choses. Si le visiteur voit qu'il y a un coin là qui n'est pas propre, il ne va pas vous dire « Oh là, ce n'est pas propre. » Bon, sauf si c'est la belle-mère. Belle maman, si tu m'écoutes. Et donc, le visiteur est là. Le visiteur est joyeux. Le visiteur est souriant. Et à un moment donné, après le dessert ou le café, en général, qu'est-ce qui se passe? Le visiteur ou celui qui accueille fait ce geste. Il regarde sa montre et il dit « Bon, ben, c'était sympa de t'avoir. Hein. Ouais, bon, ben, écoute, il faut que j'aille parce que j'ai encore des choses à faire. » Voilà, petite parole là. Et puis c'est comme ça qu'il se lève et ils partent. Il vous ferme, on dit « Ah, oh. Il est venu, il a souri, il a mangé, on a passé une bonne soirée. Ciao. » Il est parti. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit ne vient pas de cette façon. Lorsque le Saint-Esprit ne vient pas comme un visiteur, lorsqu'il vient, il vient pour rester. Vous savez pourquoi il vient pour rester? Parce qu'il ne vient pas comme un visiteur, il vient comme le propriétaire de la maison. Il y a une grosse erreur que nous sommes en train de faire lorsque nous invitons le Saint-Esprit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'on invite le Saint-Esprit, souvent, on se dit « Je vais l'inviter chez moi. » Et il va rester éternellement chez moi. Et c'est la grande erreur que chacun fait. Vous devez comprendre maintenant que lorsque vous invitez le Saint-Esprit, quand vous avez fait alliance avec Dieu, vous n'avez pas fait alliance pour inviter Dieu chez vous, mais vous l'invitez chez lui. Vous l'invitez chez lui. Chez vous, ce n'est plus chez vous. Chez vous, c'est chez lui. De telle sorte que la Bible dit que nous sommes plus, nous ne nous appartenons plus, mais nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et donc, lorsque tu accueilles le Saint-Esprit, comprends cela, viens chez toi, Seigneur. Et si le Seigneur est chez lui, le Seigneur a le droit de faire ce qui lui plaît. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ma vie, il a le droit de le dire. Encore vais-je écouter. S'il y a une pièce qu'il doit réparer, il a le droit de dire « ça, il faut réparer ». S'il y a quelque chose qui a été cassé dans la maison, il a le droit de dire « ça, il faut que tu paies le prix pour ça ». Accueillons le Saint-Esprit, non pas comme un visiteur, mais comme le propriétaire, comme le Seigneur, comme le Dieu du temple, comme le Seigneur de la maison. La grande condition donc pour marcher par l'Esprit, c'est de se soumettre pleinement à Dieu. C'est de lui ouvrir complètement notre cœur et le laisser entrer dans nos vies et lui laisser le droit d'agir comme il le veut. Et si tu fais cela, il va commencer à se manifester. Et c'est pour ça que Jésus, juste après le verset que nous avons dit, ne va plus appeler le Saint-Esprit le Consolateur, mais directement son nom change et il dira « l'Esprit de vérité » que le monde ne peut pas recevoir. Hein, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité vient pour nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de vérité vient pour révéler le mensonge dans nos vies. Vient pour dévoiler ce qui ne joue pas. Vient dévoiler ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Ce matin, est-ce que vous avez accueilli Dieu, le Saint-Esprit, comme votre Dieu, comme votre Seigneur, comme le propriétaire de la maison? Ce matin, je voudrais vous inviter à fermer la porte sur tout ce qui est charnel en vous et d'ouvrir la porte grand ouverte au Saint-Esprit pour qu'il se manifeste et vous conduise dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Amen. Voici ma prière ce matin. Seigneur, je t'offre les clés de mon cœur pour que toi, Saint-Esprit, tu puisses m'offrir les clés pour une vie de gloire et de puissance avec toi. Ce matin, nous comprenons l'importance de marcher par l'Esprit. Nous avons compris que plus nous permettons, Saint-Esprit, d'agir en nous, plus il pourra se manifester au travers de nous. Nous avons compris que le Saint-Esprit veut habiter en nous, non pas pour être un visiteur que nous emprisonnons en nous et que nous limitons, mais comme le propriétaire, le Dieu qui agit, qui se manifeste en nous. Ce matin, nous avons compris que pour entrer dans cette dimension de l'Esprit, nous avons besoin de nous soumettre. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dira « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ma question donc pour terminer est, où en suis-je dans ma marche avec Dieu? Suis-je encore comme Samuel qui pleure sur la chair? Et parfois on est comme Samuel, on pleure, on n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à fermer la porte sur ce qui est charnel. Dieu nous demande des choses, Seigneur c'est trop dur d'abandonner ça, puis on reste là-dessus. Non je ne peux pas quitter ça, je ne peux pas abandonner ça, non je ne peux pas fermer. Et puis on pleure, on est indécis. Puis à bout d'un moment il faut prendre une décision et fermer la porte pour ouvrir une autre. Ce matin, est-ce que tu es d'accord de fermer la porte à tout ce qui pourrait avoir une emprise sur ta vie et qui t'éloigne loin de ce que Dieu veut faire en toi et au travers de toi? Est-ce que ce matin avec moi, tu es d'accord de faire quelque chose de très simple? C'est juste d'inviter le Saint-Esprit en ouvrant ton cœur grand ouvert et en l'invitant et dire « Seigneur, j'ouvre mon cœur ce matin et je t'invite à prendre la place en moi et d'agir ». Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Seigneur Jésus, le Seigneur veut agir. Je crois que à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, ceux qui écoutent avec foi reçoivent une grâce en particulier pour entrer dans ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je prêchais il y a 2 semaines à l'église où je suis. Et alors que j'étais en train de prêcher la parole de Dieu, soudainement la puissance de Dieu va tomber sur une sœur. Elle avait des maux au niveau du dos. Je sais que c'est courant aujourd'hui. Mais ça faisait des mois qu'elle souffrait du dos. Et soudainement, là, pendant que je suis en train de prêcher, la puissance de Dieu tombe sur elle et la guérit complètement. C'est juste quelques temps après que je crois à cette sœur qui me raconte cela. Et là, j'ai de nouveau compris que la parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, on la reçoit avec foi, est capable de nous emmener dans une puissance souvent qui nous dépasse. Et ce matin, alors que tu as reçu cette parole dans ton cœur, elle te donne ce matin la grâce de pouvoir claquer toutes les portes qu'il faut claquer sur la chair et ce règne de la chair pour ouvrir la porte à l'Esprit. Il y a dans la Bible l'histoire de ce jeune homme riche qui voulait absolument savoir comment hériter de la vie éternelle. Et lorsqu'il va trouver Jésus, que Jésus va lui dire ce qu'il faut faire, cet homme va avoir un dilemme. Jésus lui demandait de tout abandonner, de tout laisser ses richesses. Et pour lui, c'était trop difficile. Et au lieu de fermer la porte à sa vie passée, Il a laissé ouverte, il a continué son chemin. Ce matin, ne sois pas comme ce jeune homme riche. Ce matin, ne reste pas comme Samuel qui pleure sans cesse sur quelque chose du passé que Jésus, que Dieu a rejeté, que Dieu a mis de côté. Lève-toi, lève les yeux. Il y a quelque chose devant toi, quelque chose de plus glorieux devant toi. Saint-Esprit, je veux t'inviter maintenant au milieu de nous. Nous sommes là, Seigneur Jésus, devant toi et nous ouvrons notre cœur grand ouvert. Seigneur Jésus, nous accueillons ta présence, nous accueillons ton esprit dans nos cœurs et nous te laissons agir dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, restons dans la présence de Dieu. Est-ce que peut-être il y a un musicien qui pourrait peut-être venir? On voudrait juste, alléluia, se placer juste devant Dieu, quelques minutes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jésus, restez devant Dieu, vous avez les yeux fermés, on reste devant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ici. Plusieurs fois, le Seigneur t'a montré qu'il y avait des choses précises dans ta vie que tu devais laisser à ses pieds. Au début, tu entendais ce que Dieu te disait, mais tu esquivais. Tu esquivais, tu faisais semblant que tu n'avais pas entendu. Parce que pour toi, ça semblait bien trop difficile. Et puis le Seigneur est revenu à la charge. Il est revenu encore et encore, jusqu'il enfin réussisse à avoir ton attention. Mais là, malgré cela, tu as quand même choisis de ne pas obéir. Et tu as dit au Seigneur, mais Père, même si je n'abandonne pas cela, je t'aime quand même. Et puis tu as trouvé des compromis. Tu as essayé de te convaincre que ce n'était pas si mal de vivre comme cela et de ne pas abandonner cela. Mais avec le temps, il est manifeste que cette chose dans ta vie te porte préjudice. Et tu es convaincu au fond de toi-même, si tu regardes bien au fond de ton cœur, que cette chose, en effet, n'a plus sa place dans ta vie. Et le Seigneur t'appelle encore ce matin à déposer cette chose en particulier et de lui faire confiance. C'est quelque chose qui a beaucoup de force en toi, beaucoup d'influence en toi. Tu as mis beaucoup d'espérance dans cette chose-là. Il y a des émotions qui sont impliquées dans cette chose-là. Mais Dieu dit, abandonne ça. Ouvre-moi ton cœur et je le guérirai. Et je le comblerai de ma présence. Et moi-même, je te conduirai dans mes œuvres. Alors que tu abandonnes ça à mes pieds, tu verras si je ne suis pas le roi des rois, capable de faire des choses qui te dépassent. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit de te manifester ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a cette pensée aussi où Dieu dit, ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Il y a des choses qui sont dures en toi. Sache que Dieu est capable de briser ce qui est dur. Ce qui te semble impossible à briser, ce qui te semble impossible à t'écarter, à te débarrasser. Tu dis c'est trop dur, c'est trop difficile. Sache que Dieu est capable par sa puissance de t'en libérer. Aujourd'hui tu arrives à un point, je parle à une autre personne ici. Tu arrives à un point où tu te dis, c'est pas possible, Dieu n'arrivera pas à faire quelque chose dans ma vie. J'ai essayé, je me suis avancé, on a prié pour moi, mais à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. Dieu voudrait renouveler cette promesse dans ton cœur et te dire, ma parole est comme un marteau qui brise les rocs les plus durs. Saint-Esprit, viens maintenant et révèle ta puissance dans les cœurs. Manifeste-toi, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Dieu aimerait aussi bénir les couples. Il y a un couple en particulier ici. Tu vis des moments difficiles. Tu as entendu ce que j'ai dit au début dans ce message et le Seigneur te parle. Tu comprends maintenant que si tu veux voir des changements significatifs dans ta vie de couple, ça doit commencer par toi. Il y a un brisement qui doit se faire d'abord dans ta vie. La Bible dit l'amour est patient. L'amour croit tout. Moi, je vous dis que l'amour est prêt à mourir pour l'autre s'il le faut. Et Dieu veut déposer dans ton cœur ce genre d'amour-là qui te permettra de faire ce qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Quand on est jeune, on dit à notre bien-aimé, « Pour toi, je déplacerai les montagnes, je décrocherai la lune. » Ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas de décrocher la lune, mais de le laisser toucher ton cœur. Viens, Seigneur Jésus, maintenant. Manifeste-toi. Remplis-nous du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des projets que Dieu a prévus pour cette Église, des œuvres qui sont là. Dieu a mis une vision dans le cœur de ses responsables. Il a mis des choses précises. Mais parfois, il y a comme dans cette vision des obstacles qui viennent. Et je voudrais prier pour tous ceux peut-être qui ont du mal à entrer pleinement dans ce que Dieu veut faire dans cette Église. J'aimerais vous dire que le Seigneur a déposé son esprit et l'onction sur les responsables. Et Dieu veut utiliser pleinement le couple pastoral aussi pour vous amener plus loin. Et le Seigneur l'a revêtu d'un amour. Le Seigneur a revêtu son équipe pastorale de patience et d'un amour puissant pour son Église. Mais Dieu a mis aussi dans leur cœur une vision et un désir de vous emmener plus loin. Et je prie afin que cette vision maintenant puisse venir dans le cœur de chacun et que vous puissiez la recevoir comme venant de Dieu. Et que vous puissiez saisir maintenant que tout ce qui est proposé, tout ce qui est fait, c'est initié par le Seigneur. Seigneur Jésus, viens et que cette Église soit d'un seul cœur. Que cette Église saisisse, Seigneur Jésus, ton cœur. Que cette Église te recherche d'un seul cœur et entre pleinement dans tes œuvres, Jésus. Seigneur, je veux te prier pour chaque responsable, pour l'équipe pastorale, pour les anciens, pour le conseil, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont en poste, qui ont un poste en particulier, tu puisses souffler sur eux. Tu puisses te manifester avec force dans leur cœur. Tu puisses les renouveler, Jésus, et qu'ensemble, ils puissent aller dans la même direction, et qu'ensemble, ils puissent construire l'Église ici, dans cette région. Merci Père éternel parce que tu as choisi cette église pour porter ton nom. Tu as choisi cette église pour influencer cette région de Lausanne. Tu as choisi cette église, Seigneur Jésus, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant et que Jésus est ressuscité et qu'il vit à jamais. Alléluia. Merci Père. Louons-le ensemble. Louons Dieu ensemble, merci Jésus. Remercions Dieu ensemble, merci Jésus pour ta présence. Seigneur, nous accueillons ton esprit maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons te remercier, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait encore. Oh Jésus, gloire à ton nom. Louons-le, adorons-le. Jésus est vivant. Alléluia.